Vous êtes sur RTL.
7h45, merci beaucoup d'écouter la première radio de France, Elisabeth Martichoux. Vous recevez donc ce matin l'économiste Daniel Cohen.
Merci beaucoup d'être avec nous ce matin sur RTL. Bonjour Daniel Cohen.
Bonjour.
Le grand débat est largement dominé, on l'entend depuis des semaines, par les questions économiques et sociales. Et à ce chapitre, il y a des désaccords de conviction, c'est normal, c'est la démocratie. Mais il y a aussi des désaccords sur la réalité de départ, ce qui est évidemment plus compliqué pour échanger. Par exemple, Daniel Cohen, sommes-nous un pays inégalitaire? Pour certains, c'est absolument criant, et puis pour d'autres, non, c'est tout le contraire. Et pour vous?
Alors ça dépend à quoi on compare les choses. Si on compare à la France des années 70, on est plus inégalitaire que la France des années 70. Quand on regarde la progression du 1% le plus riche, son taux de progression de pouvoir d'achat au cours des 40 dernières années a été 4 fois supérieur à celui du reste de la population. Donc on voit progressivement le 1%, le 0,1% s'éloigner du reste de la population. Alors au bout du compte, ça fait quand même beaucoup moins qu'aux États-Unis. Donc oui, beaucoup plus que par rapport à la France d'il y a 50 ans, beaucoup moins que les États-Unis, et c'est ça qui fait, à mon avis, l'essentiel de la discussion. Mais ressenti, on est plus inégalitaire qu'on était auparavant, ça c'est certain.
Oui, parce que si on écoute les Gilets jaunes, la France est un pays qui fabrique, mois après mois, année après année, des inégalités. Vous dites, finalement, sur les dernières années, ça n'est pas si évident.
Sur le revenu, oui, moins qu'aux États-Unis, mais oui, indiscutablement. Mmh. Mais en effet, c'est ailleurs qu'en France se joue la question des inégalités.
Ailleurs que sur les revenus, donc.
En plus que des revenus, mais plus, de façon plus marquée que sur les seuls revenus. C'est par exemple l'école, l'éducation. On sait que la France est le seul système scolaire recensé par le CDE où les inégalités au cours du parcours éducatif augmente, c'est-à-dire que un enfant à la fin de son parcours scolaire, il a moins de chances d'accéder à tel et tel emploi qu'on aurait pu le penser au départ sur la seule foi de ce que faisaient ses parents. Donc nous augmentons les inégalités de destin au cours de l'école à cause de nos pyramides, grandes écoles, universités, etc. Donc ça c'est un point très important. L'autre dimension qui est peut-être au cœur de la question des Gilets jaunes, c'est les inégalités territoriales. Si vous êtes dans une petite ville de 10 000 à 30 000, vous avez beaucoup moins d'opportunités, y compris de consommation de biens publics, mais aussi de promotion de vos enfants, que si vous êtes dans une grande agglomération. C'est tout ça qui se cumule. Et il faudrait rajouter aussi les inégalités de patrimoine, au-delà du revenu. Aujourd'hui, le patrimoine français, il est à 70% hérité. C'est-à-dire, je regarde ce que possèdent les Français, à 70%, c'est le résultat d'un héritage. Évidemment, ça rend fou ceux qui viennent dans le monde avec rien et qui doivent tout reconstruire.
Oui, alors, on va revenir sur les territoires, mais par exemple sur l'école, vous dites que c'est le premier scandale en fait inégalitaire qui produit des inégalités en France. On passe à côté alors dans le débat en ce moment. Je suis désolée, dans les ronds-points, il n'y a jamais question.
Il n'en est jamais question, mais il en est question de manière métaphorique. C'est-à-dire que ce dont il est question dans ces ronds-points, c'est le fait que pour toute une classe de la population française, les classes populaires, les classes moyennes, inférieures, l'horizon s'est brutalement, au cours des 30 dernières années, assombri. Avant, on était dans un mouvement, on va dire, dynamique. Vous étiez un ouvrier d'usine dans les années 60, vous aviez un espoir de progression, de pouvoir d'achat, vous pouviez devenir contremaître. Vous étiez surtout intégré dans un ensemble, une usine avec des syndicats qui vous donnaient de la force collective.
Il y avait cette solidarité-là que les gens retrouvent d'ailleurs, justement, voilà, sur les ronds-points, la fraternité.
C'est ça qui se retrouve, c'est-à-dire que tout ça s'est délité. Et on a une société beaucoup plus atomisée que par le passé, dans laquelle votre souffrance individuelle, au fond, vous enferme dans votre solitude. Avec les gilets jaunes, avec ces ronds-points, les gens se sont rendus compte que leur souffrance individuelle était aussi collective. Et c'est ça qui, tout d'un coup, a donné une force à ce mouvement. Et c'est vraiment ça qui a changé, pour reprendre le titre de mon livre, par rapport aux années 60. Cette solitude sociale, nouvelle, sociale et géographique des classes populaires.
Et qui est créée par la disparition, parce que ça c'est factuel, des services publics dans les territoires, en province, en région.
Qui l'accompagne, parce que en fait tout ça est très lié l'un à l'autre. Pourquoi les gens vont dans des petites villes? Pourquoi ils s'éloignent des agglomérations? Parce qu'ils n'ont pas les moyens de vivre en centre-ville. Ils n'ont pas les moyens de vivre à proximité de ces foyers de dynamisme. Donc en effet, il y a une double relégation, intimement liée l'une à l'autre, mais dont on voit tout d'un coup la force apparaître, la relégation sociale et la relégation territoriale. C'est le même mouvement, mais c'est pas exactement la même chose. Le ressenti n'est pas le même, mais tout d'un coup, ça fait masse. On se retrouve seul, sans espoir d'accès au reste du monde, si on peut dire. Enfin, c'est-à-dire au monde où se fait l'activité économique, où se fait la promotion sociale.
Alors, on a beaucoup dit qu'il y avait une apparente contradiction dans une revendication des Gilets jaunes. C'était, on veut payer moins d'impôts parce qu'on est écrasé par cet impôt dont on ne voit plus le sens. On n'en voit plus le sens parce que, par ailleurs, on a moins de services publics. Donc, on veut payer moins d'impôts, mais on veut plus de services publics. Contradiction ?
Oui, c'est une contradiction, mais apparente, pardon, est facile à régler. C'est-à-dire qu'effectivement, quand vous êtes dans une ville où tout se ferme, les casernes, les postes, les maternités, les écoles publiques, etc., vous dites, pourquoi je paye des impôts ? Je n'en vois pas la contrepartie. Donc, oui, plus de services publics, parce que je vois qu'ils disparaissent, et puis moins d'impôts, puisque je ne sais pas pourquoi je paye, puisque je n'en vois pas la contrepartie quand on me demande de faire une heure de chemin pour accéder à une maternité. Donc, tout ça, je pense, est assez simple. Maintenant, il y a quelque chose de plus subtil, effectivement, derrière ce consentement à l'impôt, ça nous ramène à la chose d'avant. On voit dans les enquêtes que les gens qui sont méfiants, qui sont inquiets de la société, du reste du monde, qui sont inquiets de quelqu'un rencontré par hasard dans la rue, c'est pas simplement les immigrés, etc. Donc les gens qui vivent dans cet état d'inquiétude, qui sont assez caractéristiques de ces populations désocialisées, alors en effet, le consentement à l'impôt baisse aussi. Il y a quelque chose comme une méfiance générale.
Vous voulez dire que c'est la cohésion, oui, la perte de cohésion nationale,
oui, fait que je n'ai pas envie, ouais, de mettre mon obol dans quelque chose qui fait tourner le système. Donc ouais, c'est au-delà de, j'ai pas de service public, donc pourquoi je paye des impôts ? Bon, ça, la contradiction est facile à comprendre et à résoudre d'une certaine manière. Il y a un peu plus, en effet. C'est ce qui fait que, pour aller aux États-Unis deux secondes, les électeurs de Trump, qui ont beaucoup de parallélisme avec les électeurs de Mme Le Pen, pour prendre cet exemple, eh bien, sont dans la même situation. Ils ne veulent pas payer d'impôts parce qu'ils considèrent que, bon, qu'on les laisse tranquilles après tout.
Mais ces Français en colère sont les électeurs des extrêmes et l'extrême droite en particulier ?
Bah, l'extrême droite capte totalement, voilà, vraiment, capte cet électorat désocialisé et inquiet. Si on regarde, par exemple, le même type d'indicateur pour les électeurs de Mélenchon, on n'a pas du tout la même chose. Les électeurs de Mélenchon ont un très fort consentement à l'impôt. Bon, souvent, ils viennent de la fonction publique. Enfin, et deuxièmement, quand on les interroge sur vous rencontrez quelqu'un dans la rue au hasard, ils leur font a priori confiance. Donc, c'est pas, même si on voit souvent des parallélismes entre les deux extrêmes, en réalité, quand on creuse, la sociologie, celle dont on parle là, est tout à fait différente.
Ces questions que vous décrivez, on ne les règle pas en rétablissant l'ISF ?
Ben, l'ISF fait partie des symboles. Il y a beaucoup de symbolique,
oui,
dans
mais
cette
on
histoire.
Ne règle pas, ça ne réduit pas. Est-ce qu'il a beau jeu de dire, Emmanuel Macron, il l'a encore répété hier face aux Français, il a dit, mais la situation des Gilets jaunes, elle ne se réglera pas, elle ne s'améliorera pas parce que si je rétablis l'ISF, il a tort ?
Alors, on va partir pour un long tunnel, mais deux minutes là-dessus. Alors, pour dire que d'abord, quand
tunnel,
on nous dit que l'ISF va restaurer la croissance française, on se moque du monde. Enfin, c'est impossible qu'une baisse de taxes de 3 milliards restaure la croissance française. Et quelles que soient les simulations qu'on peut faire sur le retour des exilés fiscaux, ça ne va pas relancer la croissance française. Les besoins de financement des entreprises sont absolument satisfaits. Les taux d'intérêt sont très bas. Donc ça, c'est de la blague. Donc de l'autre côté, quand on dit rétablissez l'ISF et je règle tout, bien sûr que non. C'est 3 milliards par rapport à une masse de paiement qui est de l'ordre de 1200 milliards. Mais on est dans le symbolique ici. On est exactement la discussion qu'on était en train d'avoir. Quel est mon consentement à l'impôt ? Quelle est mon envie de rentrer dans le système ? Si je vois que les riches font sécession, pour reprendre une formule de Jérôme Fourquet, alors moi aussi je fais sécession. Donc il y a quelque chose qui va très au-delà du chiffre lui-même, qui dans les deux cas est exagéré, et quelque chose qui ressemble à une symbolique. C'est celle-là que le président a perdue avec cette histoire d'ISF. Parce que
vous dites c'est son boulet, il faut qu'il
le rétablisse. Ouais, ou c'est son boulet, c'est le sparadrap du capitaine Haddock, c'est-à-dire que ça sera toujours là. Il faut qu'il trouve une formule qui montre que oui, il a compris qu'on attendait un effort de la part de ces 1%, de ces 0,1%, dont le niveau de revenu n'a cessé de progresser, qui n'ont aucun des problèmes qu'on vient d'évoquer à l'heure où on demande des efforts aux autres. Bon, maintenant on dit 3 milliards, c'est pas grand-chose, c'est le montant de la taxe sur les carburants, pour donner juste cet exemple. Donc oui, les gens voient bien qu'il y a une mise en parallèle entre les deux affaires.
On parlait du ressenti. C'est vrai qu'il y a un phénomène, il y a une société de défiance aujourd'hui qui touche tout le monde, et les médias en particulier aussi, mais aussi les économistes. On est un peu perdu parce qu'on entend tout et son contraire sur les chiffres. On se demande s'il faut brûler les statisticiens ou pas. Qu'est-ce qui est le plus important, Daniel Cohen ?
Les statistiques.
La rationalité des chiffres ou le ressenti, quand on est un homme politique ?
Il faut surtout pas les opposer. Les deux ont leur force. Dire j'ai les chiffres, donc votre ressenti, je m'en fiche, non. J'ai votre ressenti, donc je me fiche des chiffres, non. Il faut les deux. Ça nous ramène exactement à cette question de l'ISF. Il y a des données, il les faut. En fait, les seules choses que les économistes font vraiment bien, c'est produire des données. Après, il y a un débat public sur ces données. Il faut ignorer ni l'un ni l'autre, parce que sinon, on rentre à la fois dans ce monde des fake news, ou à la fois dans ce monde de technocrates. Il faut surtout éviter ce divorce entre les deux.
Mais vous le sentez, sentez, vous, vous êtes un expert comme d'autres, le déclin dans la confiance que les Français et au-delà d'ailleurs.
C'est un déclin général. Bon, les économistes, les médias, etc. En effet, on est dans une période où, pour ces classes populaires, il n'y a rien qui fasse apparaître des rayons de soleil. On voit les villes se réduire, on voit les horizons se boucher. On n'a plus confiance en rien. Donc, quand quelqu'un vous dit bah, ça ne va pas si mal, on a envie de lui dire on va te faire voir.
La colère, personne ne l'a vu venir, pour finir. On va s'en sortir.
On va voir, franchement, ça serait ridicule de faire des plans sur la comète, mais il faut en effet comprendre en effet ce point de départ qui est qu'il y a des masses croissantes de gens qui se sentent seuls socialement et vers lesquels il faut aller.
Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin, Daniel Cohen. Il faut dire que les temps ont changé, chronique fiévreuse d'une mutation qui inquiète chez Albin Michel, c'est votre livre. Merci à vous, bonne journée.
Et vous retrouvez bien entendu cette interview sur le site rtl.fr dans un instant, Cyprien Sidi.